Nous lisons dans Matthieu au chapitre 23, Jésus dit ceci à partir du verset 2. Il parle à ses disciples. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salué dans les places publiques et à être appelé par les hommes « Maître, Maître ». Mais vous, ne vous faites pas appeler Maître, car un seul est votre Maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler Directeur, car un seul est votre Directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Nous lisons dans 1 Pierre 5, La Bible dit, à partir du verset 1er, « Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons parler de l'orgueil, en particulier dans le milieu évangélique. Donc c'est ça notre thème. Nous allons expliquer comment le système évangélique d'aujourd'hui amène l'orgueil dans la vie des gens. Et je dis bien le système, mais la parole de Dieu n'amène pas d'orgueil. Jésus ne donne pas l'orgueil, mais le système tel qu'il est fait amène l'orgueil dans la vie des gens et affaiblit les gens vis-à-vis du diable. Vous savez, lorsqu'on souffre d'une maladie, on devient faible, tout le corps devient faible et facilement nous attrapons d'autres maladies encore. Et là, nous allons parler particulièrement d'une maladie nosocomiale. Donc une maladie nosocomiale, c'est une maladie qu'on attrape à l'hôpital. L'hôpital est censé guérir les gens, leur donner la santé, mais il peut donner certaines maladies. Donc l'Église est censée rendre les gens purs, simples, humbles, mais le système tel qu'il est fait, ça peut amener l'orgueil. Finalement, les gens viennent attraper certaines maladies là où ils étaient censés en être libérés. C'est important. Vous savez, nous sommes dans la fin des temps et la lutte va être dure pour rester chrétien. Ça va devenir de plus en plus dur. Nous avons besoin de connaître, de voir comment l'ennemi agit pour contrer ses actes. Nous avons besoin de revenir au vrai christianisme, à la ressemblance de Jésus pour pouvoir tenir bon, parce que ça ne sera pas facile. Et l'orgueil, c'est l'arme le plus fort de l'ennemi, parce que l'orgueil, c'est la racine même du mal. C'est la racine du mal. Quel a été le premier péché? Ça a été l'orgueil. C'est le premier péché, c'est-à-dire que le diable a voulu être comme Dieu. Et là, nous venons de lire dans le texte, Jésus est en train de parler de qui? Des religieux, des pharisiens qui mettaient des phylactères, c'était des étuis où il y avait des versets, ils les mettaient au front ou au bras. Ils avaient des vêtements avec des franges pour montrer une sorte de spiritualité. Il y avait aussi des lanières de cuir qu'ils entouraient, sur lesquelles étaient écrits des versets. Ils entouraient leurs bras des lanières de cuir. Ils voulaient les premières places, ils voulaient être appelés maîtres. Mais c'était eux qui étaient censés amener les gens dans la pureté, dans la simplicité. Mais c'est eux qui étaient les plus grands orgueilleux. Jésus dit, vous ne faites pas comme eux, mais que le plus grand au milieu de vous soit le plus petit. Soit comme le serviteur. Si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur. Et la Bible dit que le diable, on l'appelle aussi le malin. Quelqu'un qui est malin, qui est rusé, ne viendra pas en face. Il utilisera ce qu'on appelle des artifices, des ruses pour t'avoir. Donc, beaucoup se font avoir parce qu'ils attendent le diable en face. Mais lui ne viendra pas en face. Il va employer d'autres artifices. Et un de ces grands artifices, c'est l'orgueil qu'il a placé, qu'il a mis dans le système évangélique actuel pour affaiblir la parole des vérités. Vous savez qu'autrefois, il y a eu le catholicisme qui a dominé le monde. On a appelé ça 1000 ans de ténèbres. Pendant 1000 ans, le catholicisme a dominé, de l'an 400 à 1400. Bien sûr, le catholicisme est une religion satanique qui prône l'adoration des statues, des idoles, qui fait appeler un homme infaillible. On dit qu'il y a dans les textes du catholicisme, on dit que le pape est infaillible. Or, la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On vient de lire dans Matthieu 23:9, Jésus dit « n'appelez personne père », mais dans le catholicisme, on appelle les gens « père Michel », « père » Père Germain, Père, ainsi de suite. Alors que c'est interdit. Dans la Bible, c'est clairement interdit qu'il ne faut pas adorer les statues, mais ils le font. Dans la Bible, c'est écrit que ceux qui prescrivent aux gens de ne pas se marier, c'est des doctrines des démons. Mais c'est ça qui est prescrit là-bas. Il y a plein d'autres choses. Mais cette religion-là a dominé pendant 1000 ans. Et Dieu, à un moment, a utilisé quelques hommes, qu'on appelle les hommes de la réforme. Luther, Calvin, Jean Hus, il a utilisé ces gens pour amener les chrétiens à la Bible. C'est ce qui s'est passé. Et les historiens, je ne parle pas des chrétiens, les historiens païens disent que après Jésus-Christ, Luther a été l'homme le plus important de l'histoire. Parce que le catholicisme régissait tout dans les maisons des gens. Le couple était régi par le prêtre, les enfants étaient régis par le prêtre, l'école était régie par les prêtres, les universités. Donc, il y avait un étouffement terrible par le catholicisme, de sorte que quand Luther est venu avec la réforme pour amener les gens à la Bible, c'était une délivrance mondiale. Ce n'était pas qu'une délivrance des chrétiens, mais c'était une délivrance mondiale. Le catholicisme n'avait plus de prise comme avant sur les pouvoirs, quoi qu'il en ait toujours une forte prise jusqu'aujourd'hui, mais ce n'est plus comme avant. Et les gens ont été libérés. On a appelé ça libération de 1000 ans de ténèbres quand le catholicisme régnait. Le diable s'est vu confondu. Alors qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve toujours des moyens d'étouffer la vérité. Et c'est ce qui s'est passé avec le protestantisme. Il a trouvé le moyen de tout faire la vérité, de faire que la vérité devienne encore une religion. Et c'est devenu une religion. Ensuite, il y a eu des réveils, il y a eu d'autres mouvements qui sont nés avec la vérité. Et aujourd'hui, nous parlons du mouvement évangélique, ce mouvement-là qui a comme objectif de prêcher la Bible et de vivre que la Bible. C'est ça le mouvement évangélique. Donc, ramener les gens à la Bible, considérée comme étant la seule parole de Dieu. Mais le diable a trouvé une parade. Faire glisser l'orgueil, faire glisser l'envie de succès, faire glisser l'argent, et ça affaiblit. Aujourd'hui, bien aimé, quand moi j'étais païen, les chrétiens, je les respectais. J'avais peur d'eux. La différence était claire entre moi et les chrétiens. Mais aujourd'hui, les païens d'aujourd'hui ne voient pas trop de différence entre eux et les chrétiens. La différence n'est plus radicale. Dans les églises, on vient trouver des vêtements compliqués. Dans les églises, on vient trouver la mode. Dans les églises, on vient trouver le succès. Les gens, quand ils font des clips, comme les chantres du monde, avec des décorations bizarres, ils font aussi des awards, c'est-à-dire des récompenses, Oscar chrétien, tel musicien, c'est le plus grand musicien de l'année. Finalement, les païens ne se retrouvent pas. Le DVD chrétien est plus cher que le DVD païen. Mais les païens se disent, mais finalement, ça c'est le diable. Il fait cela pour étouffer la vérité. Et il a fait pire encore. Il a fait en sorte que des générations de serviteurs de Dieu soient déviées à cause de l'orgueil. Et nous voulons combattre cela parce que nous voulons nous préparer au retour du Seigneur Jésus et nous voulons revenir à la vérité. Et il faut qu'on prêche cela pour que chacun sorte de cela et revienne à la vérité, à la simplicité que Jésus nous propose. Il dit clairement dans Matthieu 23, « Celui qui est grand parmi vous doit être le serviteur des autres. » C'est ce qui est écrit. C'est écrit dans 1 Pierre 5, 5, « Attention à l'orgueil. » De même, au verset 5, « Vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, l'orgueil, c'est la racine du mal. L'orgueil, c'est croire quelqu'un alors que tu n'es rien du tout. C'est croire quelqu'un. L'orgueil, c'est croire qu'on peut quelque chose alors qu'on ne peut rien. Nous voyons les gens qui pensaient prendre des vacances, ils sont morts comme ça, sans qu'on comprenne pourquoi. Aujourd'hui, c'est des recherches pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Nous ne sommes rien, mais l'orgueil te fait croire que tu es quelqu'un, que tu as des choses. Mais non, nous ne sommes rien. La Bible dit, qui est l'homme dans Ésaïe 2, 22? Qui est l'homme en qui il n'y a qu'un souffle? Qui est l'homme? Il n'est rien du tout. Tout peut se terminer en un instant. Un tremblement de terre peut se faire maintenant. Là. Tu vas faire quoi contre le tremblement de terre? Tu vas crier, tu vas sortir ton portable. Ça va faire quoi devant le tremblement de terre? Rien du tout. Bien-aimé, on va appeler les ambulances pendant qu'on plonge. Mais les ambulances vont attendre qu'on plonge bien pour venir, bien-aimé. Parce qu'ils ne vont pas prendre le risque de se faire plonger, elles aussi. C'est Dieu qui a notre vie. Et le premier péché, ça a été l'orgueil. Ça a été le diable qui a voulu être comme Dieu. Nous avons lu ça le dimanche passé, nous allons relire ça encore. Ésaïe 14. La Bible dit dans Ésaïe 14, au verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Voilà le premier acte de péché. C'est Satan qui se rebelle contre Dieu. Il veut se mettre à la place de Dieu. Je m'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu et je m'assiérai. C'est écrit. au verset 14, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Donc il serait comme Dieu, comparable à Dieu. Et il est tombé. Dans Ézéchiel 28, on parle encore du diable. On explique qu'il était bon jusqu'à ce jour-là où il a décidé de vouloir prendre la place de Dieu. Et dans Genèse, lorsque Adam pêche, il pêche pourquoi ? Il pêche parce qu'on lui promet, on promet à Ève que lorsque vous mangerez du fruit, vous serez comme un Dieu. Donc vous allez prendre la place de Dieu, vous serez en égalité avec lui. Donc le premier péché a été toujours la conquête de l'égalité vis-à-vis de Dieu. C'est ça la racine du mal, c'est ce qui est à l'origine de tout. Et dites-vous bien que cela va toujours recommencer. Tant qu'on a la chair qu'on a héritée d'Adam, cette chair-là nous poussera toujours à vouloir être semblable à Dieu. Maintenant, nous n'allons pas chercher comme il y a un film où il y a un homme à qui on lui donne le temps d'être Dieu pendant un certain temps. Non, on se transforme en Dieu quand on décide qu'on est le maître de soi-même. Là, en quelque sorte, on se transforme en Dieu. On décide de diriger sa propre vie. On se transforme en Dieu. On se transforme en Dieu quand on dit « je ». « Je », tout le temps « je ». « Je ». Quand on devient son chef, on se transforme en Dieu. C'est le péché le plus grave. Le péché de vouloir empêcher Dieu d'agir sur nos vies, de diriger notre vie. C'est très dangereux. C'est le péché de croire qu'on est plus sage que Dieu. La Bible dit ceci, toi tu dis non, mais. Donc c'est se croire plus sage que Dieu. La Bible dit cela, toi tu dis mais. C'est se croire plus intelligent. Donc c'est mettre au niveau de Dieu. C'est le péché qui est à l'origine de tous les autres. Souvenez-vous, quand Adam était dans le jardin d'Éden, on ne parle pas de mensonge. On ne parle pas d'impudicité, on ne parle pas de combat, de bagarre, on ne parle pas de tuerie. Mais l'orgueil a eu la voie pour venir. Donc l'orgueil, c'est la racine du mal. Tous les péchés sont mauvais, mais la racine, c'est l'orgueil. L'orgueil nous amène à prendre la place de Dieu dans nos vies, ce qui fait que Dieu s'éloigne. Et quand Dieu s'éloigne, nous devenons faibles. C'est comme toute maladie. Dès que vous avez une maladie, vous avez par exemple la grippe, jouer au football devient impossible. Parce que la grippe, non seulement elle atteint les parties pulmonaires, mais elle affaiblit tout le corps. C'est la même chose. L'orgueil, c'est la racine du mal. Dès que tu es atteint par l'orgueil, finalement, tu deviens faible pour les autres péchés. L'apôtre Jacques dit que lorsqu'on a péché, par rapport à un commandement, on a péché contre tous les autres commandements. Or, l'orgueil, c'est péché contre le commandement. Il n'y a qu'un seul Dieu que tu serviras, lui seul. L'orgueil, c'est que c'est toi qui deviens ton Dieu. C'est toi qui te dirige. Tu renies à Dieu la prééminence sur toi. Tu renies à Dieu le fait qu'il te gère. Tu renies cela à Dieu. Et c'est ça l'orgueil. Et c'est ça la racine de tout. Et cet orgueil va t'amener petit à petit à croire que Dieu se trompe. Petit à petit à croire. Mais bien aimé, personne ne va dire de sa bouche Dieu se trompe. Mais le comportement, les réactions montrent que c'est comme si Dieu s'est trompé. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas le choix. Je devais mentir. Donc, c'est quelqu'un qui dit que quand Dieu dit qu'il ne faut pas mentir, donc ça ne nous amènera pas de solution. C'est faux. Donc, c'est quelqu'un qui prétend que Dieu se trompe. C'est très dangereux. Et cet orgueil-là est la racine. Après, tous les autres péchés viennent. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez prendre quelqu'un qui ne vole pas, qui ne ment pas, qui est pur par rapport à son corps, qui fait des dons à l'église, qui fait des dons, qui fait des aumônes aux pauvres. C'est-à-dire que, d'une manière extérieure, cet homme-là est correct. Mais, vous savez dans quoi il peut tomber? C'est le fait de se croire plus parfait que les autres. Vous voyez que même là, alors que tous les autres péchés sont vaincus, l'orgueil peut se présenter. Et ça, c'est ma version personnelle. Hein. Dans Hébreux 12, quand l'apôtre Paul dit le péché qui nous enveloppe facilement, personnellement, dans mon expérience en tant que chrétien et serviteur de Dieu, c'est l'orgueil. Je crois que quand il parlait là, le péché qui nous enveloppe facilement, il parlait de l'orgueil. L'orgueil, tu ne l'invites pas. Il vient tout seul t'envelopper. Il a clairement dit le péché qui nous enveloppe facilement. Tu peux être même dans un couvent, caché, isolé dans le désert, mais l'orgueil peut venir. Tu te crois, bon, puisque moi j'endure beaucoup de sacrifices pour Dieu, tu te prends toi pour plus fort que les autres. Alors que tu as vaincu tous les autres péchés, mais l'orgueil lui peut venir toujours. Parce que c'est la racine. C'est la racine. Attention, bien-aimé. Et dès que l'orgueil vient, tu commences à devenir faible par rapport aux autres péchés. Il y a beaucoup de gens, moi le premier, il y a un moment, j'étais terriblement attaqué, je me sentais faible. J'ai prié. Le Seigneur m'a donné comme réponse. Il a dit, tu sais, l'origine de la faiblesse dans tout homme, c'est l'orgueil. Au lieu d'insister sur les sources d'attaque, devient de plus en plus encore simple. Le niveau de combat dans lequel tu es nécessite encore beaucoup d'humiliation. C'est clair, bien-aimé. L'orgueil va te rendre faible et tu vas devenir faible par rapport aux autres péchés. Tu vas te surprendre, vouloir te battre alors que tu as oublié comment on se bat. Tu as oublié même la colère. Mais du moment que tu commences à faiblir, tu commences à entrer dans l'orgueil, tu commences à croire que toi tu es arrivé, tu commences à croire que les autres sont en retard, c'est des négligents, c'est des gens qui n'aiment pas le Seigneur, c'est toi qui aimes le Seigneur. Tu commences à croire des choses petit à petit, à force d'être correct, hein, eh bien, au lieu que cela te rende plus simple, ça te rend orgueilleux. C'est vraiment la contradiction. Hein. Normalement, plus on devient pur, plus on devait rester simple, puisque la simplicité fait partie de la pureté. Mais curieusement, quelqu'un de pur a beaucoup plus a tendance à devenir orgueilleux. C'est pour nous dire la force de l'orgueil. C'est vraiment subtil. Ça atteint même les gens qui travaillent à être purs. Donc il faut qu'on soit vigilant. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. J'ai dit que dès que tu es attrapé par un péché, tu deviens faible par rapport aux autres péchés. Alors Satan va venir par l'orgueil parce que c'est un péché qui n'est pas visible. Il peut surprendre tout le monde avec cela. Et pendant que tu parais physiquement pur, par rapport à l'impudicité, par rapport au vol, par rapport aux injures, par rapport à beaucoup de choses, quand les gens te voient, ils voient un homme pur. Alors Satan peut venir glisser l'orgueil. Et il commence son œuvre. Et petit à petit, tu t'affaiblis. Mais toi, tu crois que tu n'as pas de problème. Et bientôt, qu'est-ce qui commence à se manifester? Tiens, tu commences à avoir un peu d'amour pour l'argent. Tu commences à avoir un peu d'amour. Tu commences à regarder les gens, leur corps. Tu commences à réagir mal, dans la colère. Et tu crois que le problème, ce sont ces choses-là, c'est l'argent, c'est la beauté des autres. Non, le problème, en réalité, c'est que tu as commencé à croire que tu étais fort. Tu as commencé à croire que tu étais pur. Tu as commencé à croire que ta vie était à toi, quoi. Et petit à petit, tu as commencé à faiblir. Les autres péchés ne sont que les conséquences de ton orgueil, bien-aimé. Attention. Et l'orgueil rend fou parce qu'on s'éloigne de Dieu. Comme on s'éloigne de Dieu, on se croit fort. On croit que, vous savez, c'est comme les petits chiens qui aboient très fort. On croit qu'on peut taper tout le monde et un jour on va mal tomber, bien sûr. Donc il faut qu'on soit attentif à cette histoire d'orgueil. Très, très, très attentif. C'est la racine du mal. Non seulement c'est la racine du mal, c'est le péché le plus subtil qui nous enveloppe sans qu'on demande. Avec d'autres péchés, on peut les provoquer. L'orgueil, tu n'as pas besoin de le provoquer. Il viendra tout seul. Même quand tu es dans la ligne de la pureté, il vient quand même. Il vient quand même. Et comme Dieu résiste à l'orgueil, à l'orgueilleux, finalement, nous nous éloignons de lui, nous devenons faibles. Et l'ennemi peut nous massacrer, peut nous freiner sérieusement. Après, on commence à lutter contre la colère. On lutte contre le manque de patience. On lutte contre des choses, mais en réalité, c'est l'orgueil qui nous a déjà terrassés en amont. Donc faisons attention, vérifions bien notre vie par rapport à l'orgueil. Et aujourd'hui, je veux parler de l'orgueil nosocomial. Donc l'orgueil qu'on attrape dans le système évangélique tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des gens parfois dans le monde qui étaient assez simples, mais ils deviennent chrétiens. 5 ans, 10 ans après, on les rencontre, ils ne sont plus les mêmes. Orgueilleux. Hautain. Suffisant, comme on dit en français. Pourquoi? Parce que le système d'aujourd'hui rend orgueilleux. Et quand on devient orgueilleux, on devient inefficace vis-à-vis de Dieu. On commence à chercher à faire, à jouer en solo. On commence à vouloir. On entre dans le star system. Bien-aimés, attention. Nous allons commencer par le premier point. C'est avant même qu'on soit chrétien. La façon dont les chrétiens cherchent à sauver les autres, la façon dont les pasteurs font des publicités pour sauver les âmes, déjà, ça donne à une âme qui n'est pas chrétienne l'impression que Dieu a besoin d'elle. La façon dont on flatte les gens aujourd'hui pour devenir chrétiens, déjà, ça leur communique l'orgueil. Ils ont l'impression que Dieu a besoin de moi, c'est pourquoi il me supplie pour que je devienne chrétien. Bien-aimé, moi, je ne supplierai jamais quelqu'un à devenir chrétien. Je t'annonce la vérité, que tu es dans l'erreur, tu es dans la perdition. Aujourd'hui, on dit non, on ne dit pas ça. Bien-aimé, tu es malade, viens, Jésus va te guérir. Oh, tu as un problème, viens, tu vas voir la puissance de Dieu. Mais non, mais viens à notre église, le pasteur te verra. Donc, la personne se sent désirée, comment dire, flattée. Bien-aimé, la flatterie, ce n'est pas de Dieu. Nous devons prêcher la vérité. Ça ne change pas que. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas dire aux gens, écoutez, vous êtes malade, bon, on priera pour vous. Ce n'est pas mauvais. Mais donc, il faut qu'on comprenne qu'on ne doit pas flatter. On doit présenter Dieu. Il faut dire aux gens que si vous ne vous convertissez pas, vous êtes perdus. Si vous ne vous convertissez pas, vous êtes en danger. En vous convertissant, Dieu vous donnera la vie. Et il changera votre corps, vous recevrez la santé. Mais il ne faut pas faire comme si on cherchait des clients. On fait des pubs, margarine ou beurre, j'ai oublié le nom, beurre de Bretagne. Et, non, nous ne faisons pas de pubs. Nous disons aux gens, Jésus-Christ est mort pour nous tous à la croix. Et on peut bénéficier de cela, recevoir le salut. Vous savez, dès qu'avant même d'être chrétien, beaucoup ont déjà reçu l'orgueil à cause du système évangélique. Parce qu'on les supplie. Devenez chrétien. On priera pour vous. Devenez chrétien. Bien-aimés, on doit parler, visiter les gens, discuter de l'évangile sans supplier. On nous demande de prêcher. Prêcher, ce n'est pas supplier. Prêcher, c'est dire. C'est que le message de Dieu, c'est que si vous ne vous convertissez pas, vous êtes perdu. Vous êtes en danger de mort. Satan cherche à vous avaler pour vous amener en enfer. Le message de Dieu, c'est que le péché ne donne aucune satisfaction. Parce que s'il donnait de la satisfaction, on ne mourrait jamais. Mais on continue à mourir, c'est que le péché ne résout pas le problème de l'humanité. Si le péché donnait la satisfaction, certains hommes n'iraient pas jusqu'à avoir 20 maîtresses, 30 ou 40. Donc, il y a un problème. Si le péché satisfaisait, certaines personnes n'auraient pas de garde-robe avec 600, 100, 1000 habits qu'ils ne portent même pas. Il y en a qui ont 40, 30 voitures qui ne conduisent même pas. C'est qu'il n'y a pas de limite à la bêtise. Donc, il n'y a aucune satisfaction. C'est ça le message qu'on doit dire. On doit dire, mais venez, pourquoi vous loupez un si grand salut? C'est tout. Mais on ne doit pas supplier. On doit laisser Dieu attirer les gens par son Esprit Saint. Nous ne sommes que des instruments. Disons ce que Dieu nous dira par la bouche. Tout ce qui sortira par la bouche, dans la vérité, on le dit. Mais on ne doit pas chercher à convaincre les gens à tout prix. On doit parler et laisser le Saint-Esprit les convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est ça la vérité. La flatterie déjà communique l'orgueil aux gens. Ce qui fait qu'ils viennent déjà dans l'orgueil. Ils viennent en Christ, mais dans l'orgueil. Déjà dans l'orgueil. Ils se disent, oh Dieu m'a cherché, hein? Il a besoin de moi. Et quand il arrive à l'église, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Il y a deux personnes qui étaient venues pour me voir. il y a 5 ans pour me dire, pasteur, on veut un rendez-vous avec toi. Oui, on se retrouve. Ils disent, pasteur, on ne comprend pas. Nous, on venait dans l'église dans le but d'aider l'église financièrement. Mais depuis qu'on est là, nos finances ne vont pas bien. Moi, j'ai dit, ah, mais oui, puisque vous vous êtes trompé de calcul. Vous avez fait l'addition, la soustraction. Vous ne pouvez pas aider l'église. L'église, c'est à Dieu. Dieu est assez riche, il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider. Vous devez prier pour venir recevoir la bénédiction de l'église. Et quand vous recevrez la bénédiction du corps du Christ, vous, après, vous pouvez rendre à Dieu ce que Dieu vous a donné. Vous avez fait un mauvais calcul de penser venir l'église, aider l'église. Non. Qui peut aider Dieu? La Bible dit qu'il est tout puissant, il n'a besoin de l'aide de personne. Il nous utilise par grâce, par amour, pour nous associer à lui. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de toi. Alors, la façon dont on a prêché à certains, ils ont cru que Dieu avait besoin d'eux. Et ils viennent, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Moi, je dis, calme-toi, tu ne vas rien faire. Tu vas t'asseoir et suivre les enseignements. Amen. Ah oui. Si tu n'es pas d'accord, ben, tu commences ton église et puis avec un autre Dieu, pas avec le Dieu de Jésus. Nous continuons, bien-aimés. Et maintenant, notre bien-aimé, femme ou homme, se convertit, il vient à l'église. Tout de suite, on lui parle des histoires des dons spirituels, des histoires des miracles, des histoires de puissance. Et finalement, la personne, au lieu de chercher Jésus, commence à chercher la prophétie, commence à chercher le parlant langue. Bien-aimé, je ne suis pas contre ces choses-là. Je suis contre la façon dont c'est fait et ce qui communique l'orgueil. Ça fait que la personne ne se sent pas bien tant qu'elle n'a pas le parlant langue. Elle ne se sent pas bien tant qu'elle n'a pas la prophétie. Elle ne s'en sent pas bien tant qu'elle ne vit pas un miracle encore. Parce qu'on ne lui a pas dit que la vérité, c'est Jésus. La Bible dit dans Jean 14, 6, c'est Jésus qui parle, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a prié instamment pour être guéri d'un problème. La Bible dit que le Seigneur lui a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. » La Bible nous montre que Paul avait laissé Trophime malade à Éphèse. La Bible nous montre la faiblesse de Jésus-Christ à la croix. Mais les gens, quand ils se convertissent, « Ah !» Dans spirituel, il entend là-bas quelqu'un qui prophétise. Ah, moi aussi j'aimerais. Mais tu aimerais pourquoi? Parce que dans la Bible, un âne aussi a prophétisé. Donc ce n'est pas extraordinaire. C'est Dieu qui parle. Ce qui est extraordinaire, c'est que le Fils de Dieu soit venu sur terre. Souffrir, marcher à pied, le soleil, vivre dans la fatigue. Ça c'est extraordinaire pour toi et pour moi. Et le monsieur qui est parti à la lune a dit, ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que l'homme ait mis les pieds sur la lune, c'est que Dieu ait mis les pieds sur la terre. Ça, c'est extraordinaire. Vous imaginez un jour, on frappe à ta porte, tu ouvres, c'est Michael Jackson. Mais là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres la porte, c'est Obama, comme il est à la mode maintenant. Donc, tu dis, mais non. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Alors nous, imaginez que Dieu a ouvert notre porte de la terre. Il est entré dans la saleté, dans la boue. Ça, c'est extraordinaire. Le Fils de Dieu, c'est ce que Paul dit. Je considère tout comme perte pour gagner Jésus. Ça, c'est la vérité, bien-aimé. Ce n'est pas une histoire de dons spirituels, une histoire de miracles. C'est une histoire de Jésus. Si Jésus est dans ta vie, tu as la vie en abondance. Jésus dit, Salomon avait attiré la reine de Séba. Mais ici, il y a plus grand que Salomon. Il dit que Jonas avait prêché à Ninive, tout le monde s'est converti. Mais ici, il y a plus grand que Jonas. C'est lui le Fils de Dieu. Quand tu l'as, tu as tout. Maintenant, s'il a prévu de te donner certains dons, il te les donnera. Prie, aspire aux dons spirituels et ça viendra. Mais tu aspires pourquoi? Tu dois aspirer pour accomplir la volonté de Dieu. Tu ne dois pas aspirer pour te sentir un bon chrétien. Mais tu dois aspirer aux dons spirituels pour, dans le dessein de Dieu, le dessein de Dieu, c'est qu'à travers nos dons spirituels, les gens voient sa gloire et se convertissent. Son église soit édifiée. Dans 1 Corinthiens 12, 7, c'est écrit que les dons, c'est pour l'édification commune. C'est ça le but. Ce n'est pas pour se sentir bien, je suis un bon chrétien. Donc, attention, ça communique l'orgueil. Et les gens là sont là. Chacun a son don. Chacun commence à avoir des galons. Non, bien-aimé. Autre problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est les prophéties qui élèvent les hommes. Aujourd'hui, dans les systèmes chrétiens, dans les systèmes évangéliques plutôt, parce que je préfère dire chrétien, c'est vraiment la vraie église. Le système évangélique d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on donne des prophéties aux gens qui les élèvent. On dit, frère, je t'ai vu dans un stade en train de prêcher. Bon. Donc le frère, lui, tout ce qu'il fait dans sa vie, il attend ce moment-là, il regarde l'heure, ça sera quand. Mais dans quel but toi tu veux prêcher dans un stade? Donc c'est que tu cherches ta gloire. Si c'est la gloire de Jésus, ça viendra s'il a prévu ça. David, on lui a prophétisé quoi? Qu'il sera le roi d'Israël. On l'a même moins, bien aimé, lui ce n'est même pas une prophétie seulement, hein. On lui dit, tu es le roi. On dit, je te déclare roi. Ce que Samuel avait fait avec David, c'est qu'il le déclare roi. C'est lui qui est maintenant roi. L'autre ne l'est plus. Mais est-ce que David a fait des combines pour devenir roi? À un moment, il pouvait tuer le roi qui était en place physiquement, qui cherchait à le tuer. Il ne l'a pas tué. Il a dit, quand Dieu voudra, je serai roi. Jésus, on lui a proposé de devenir le roi de la terre par Satan. Dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Est-ce qu'il a dit, bon, ça y est, je deviens roi? Non. Il a dit, j'ai une mission. Je suis agneau jusqu'à ma mort, à ma résurrection. Ma royauté me sera donnée par le Père. Voilà. Il a attendu son temps. Bien-aimé, aujourd'hui, les prophéties qui élèvent les hommes communiquent l'orgueil. Et vous savez pourquoi on communique l'orgueil par ces faux serviteurs? Parce que ce style-là est arrivé par les serviteurs du diable, certains serviteurs du diable qui ont mis des peaux de brebis alors que c'est des loups. Après, ces loups-là ont influencé des vrais serviteurs qui croyaient que c'était des brebis comme eux. Et ces vrais serviteurs ont suivi et on se retrouve avec des vrais et des faux qui font la même chose. Le but du diable, essayer d'être atteint, mais nous comptons cela au nom de Jésus-Christ. On vient, on te dit, ben, tu vas prophétiser abondamment. Tu vas être un grand dans l'église de Dieu. Et tu commences à vivre dans cette optique-là. Au lieu de vivre comme un serviteur de Dieu, tu veux vivre comme un patron maintenant. On m'a donné beaucoup de prophéties sur ma vie. Et il y en a qui ont fait 30 ans, ces prophéties-là ne se sont pas réalisées. Ils sont tout le temps en train de... Parfois, ils ont écrit ça dans un cahier. Et ça ne vient toujours pas. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu, c'est l'orgueil. Et vous savez, quand on te communique l'orgueil par ces faux pasteurs-là, donc il y a une fable de La Fontaine qui dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc quand quelqu'un te dit ça, t'es un prophète, t'es un apôtre, tu vas prêcher aux foules, automatiquement tu deviens attaché à cette personne-là. Tu le sens comme un père, tu le sens comme un homme bon parce qu'il t'a prophétisé de bonnes choses. Tu es piégé. Automatiquement, tu chercheras à rester près de lui parce que c'est lui qui t'a prophétisé. C'est comme si c'est lui la source parce que c'est passé par lui. Et tu deviens attaché. Il peut mentir, il peut faire des bêtises, mais toi, il t'avait prophétisé une bonne chose. Tu restes attaché à cette personne-là. Et c'est ça le danger. Le flatteur commence à vivre de toi. On dépend de celui qui l'écoute. Attention, bien-aimé. Et tu es prêt, même s'il habite un autre continent, à commencer à lui faire des mandats pour que ta prophétie soit maintenue, bien-aimé. Mais le but, c'est quoi? Moi, bien-aimé, si je dois porter le sac de quelqu'un qui va aller prêcher, après sa prédication, 1 million de personnes se convertissent. Moi, je porte le sac avec joie. Je dis, c'est lui qui va prendre le coup. Moi, je porte le sac tranquillement, bien-aimé. c'est lui qui va affronter la foule. Moi, je porte le sac. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas de ça. Moi, porter son sac, c'est lui qui va chanter. C'est eux qui vont chanter, ils vont avoir le succès. Moi, je porte le sac. Mais oui, mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la gloire de Jésus ou ta gloire? Si tu cherches la gloire de Jésus, tu vas porter le sac. Amen. Parce que tu sais que en portant le sac, l'autre sera plus à l'aise pour prêcher. Je parle de gros sacs, je ne parle pas des petits sacs. Le petit sac lui-même va porter. Amen. Voilà, parce qu'après on va commencer à vouloir porter les Bibles des pasteurs ici. Non, non, la Bible, le pasteur lui-même va la porter. Alors ces flatteurs-là, ils vivent aux dépens de ceux qui les écoutent en leur prophétisant des grandes choses. Des grandes choses. Comme ça, ils sont liés. Et l'orgueil est communiqué. Et quand l'orgueil est communiqué, Satan te tient. Satan te tient. Nous connaissons bien aimé des gens qui disent clairement, dans mon église, c'est la fausseté. C'est le compromis. Mais quand tu lui dis de quitter, il ne quitte pas. Vous savez pourquoi il ne quitte pas? Parce qu'il a un poste. Vous savez pourquoi il ne quitte pas? Parce qu'il a reçu des prophéties, des gloires là-bas. Donc, maintenant, il vit pour lui, quoi. Il est là, il sait que c'est pourri, mais il a son intérêt dedans. Et il va mourir dans son intérêt, dans le Titanic, bien-aimé. Non, il faut sortir et commencer à prêcher, à vivre la vérité dans la simplicité, même si tu n'es pas connu. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que Jésus soit glorifié. Nous continuons. Dans ce système-là, on met une sorte d'échelon de chrétiens. Il y a des chrétiens A, des chrétiens B, des chrétiens C. En fonction de certains paramètres, si tu es quelqu'un qui prophétise, on te met une sorte de grade. Si tu es quelqu'un qui prêche bien, on te met une sorte de grade. Je me souviens même, un jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé parce qu'il avait besoin de conseils, parce que dans leur église, ils avaient eu une journée où 3 ou 4 personnes prêchaient, quoi. On exerçait les gens à prêcher et ils faisaient une sorte de séminaire où 4 personnes allaient prêcher. Et il m'appelle. Ah, oh, mais pasteur, je veux prêcher moi à mon tour, mais la personne qui m'a précédé, il a cartonné. Moi, les gens disent, mais c'est la mode chez les chrétiens, même entre les pasteurs, ils disent, ah, mais celui qui est passé avant, ben, il a bombardé. Maintenant, comment moi je vais faire? Bien-aimé, j'ai dit à la personne, mais tu veux prêcher pourquoi? Moi, j'ai dit, laisse-toi être instrument de Dieu. Si ça échoue, c'est pour la gloire de Dieu. Mais ça n'échouera pas parce que c'est Dieu qui parlera. Si l'autre a cartonné, gloire à Dieu puisque c'est notre corps. Je ne peux pas comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu, le bras droit jaloux que le bras gauche ait pris un gâteau et mis dans la bouche? Que la main droite commence à dire, oh, mais comment le gâteau est passé par la main gauche? Vous avez déjà vu ça? Mais si, il a cartonné, mais c'est notre corps, c'est bien. Si on est un grand. S'il a bien prêché, moi je viens fier, je vais donner des cacahuètes, mais c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Où est le problème si l'autre a bien prêché? Pourquoi moi j'aurais honte de mal, entre guillemets, de prêcher pas ça? Ça ne vaut pas la peine. Nous sommes des serviteurs. Un serviteur ne décide rien. On l'utilise. Un couteau ne peut pas décider de couper un pain ou bien une viande. Moi, je prends le couteau, j'en fais ce que je veux. S'il parlait, je dirais, tais-toi, je t'ai acheté. Quank, je coupe bien aimé. C'est tout. Pourquoi aujourd'hui, nous commençons à décider, tiens, je vais prêcher. Non. Un serviteur est utilisé. C'est tout. Il ne discute pas. Il est utilisé. C'est ça le serviteur. Ou bien alors tu deviens patron. J'ai dit à la sœur, parce que c'était une sœur, j'ai dit, mes sœurs, laisse Dieu t'utiliser. Si ça n'applaudit pas, le but ce n'est pas qu'il y ait des applaudissements. Si on ne te félicite pas, le but ce n'est pas ça. Le but c'est que Dieu parle à travers toi. S'il parle, si les gens écoutent, gloire à Dieu. Ils n'écoutent pas, gloire à Dieu, tu as fait ton travail. Amen. C'est cela, bien-aimé. Attention à faire des échelons. Celui-ci prêche comme ça. Non, il faut nous tous recevoir ce que Dieu fait à travers chacun de nous. Et cela est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous continuons, bien-aimés. Il y a les indicateurs de la normalité. Aujourd'hui, les indicateurs de la normalité dans le milieu évangélique, c'est les bénédictions financière, un des indicateurs. C'est-à-dire quand quelqu'un est béni financièrement, Mais c'est comme ça qu'on considère qu'il est en bonne relation avec Dieu. C'est comme ça qu'on considère que Dieu est avec lui. Et ça, dans beaucoup de... Quand je dis le milieu évangélique, peut-être que toi, tu es dans un endroit où tu ne vis pas cela, mais c'est ce qui est répandu partout. C'est ce qui est répandu partout. Donc, si tu es béni financièrement, on considère que Dieu est avec toi. Et les pasteurs se font la guerre des voitures pour prouver que Dieu est avec eux. Donc, quand un pasteur voisin a une 4x4, l'autre aussi cherche une 4x4 pour que les gens voient que Dieu est aussi avec lui. Mais bien aimé, que nous dit 1 Timothée 6? Nous allons lire 1 Timothée 6. Leur force, c'est Salomon. Quand vous parlez, mais Salomon, mais bien aimé, donc nous sommes dans le Nouveau Testament, vous tout le temps Salomon. Lisez, nous allons lire 1 Timothée 6. On n'en disconvient pas, Salomon a été béni, mais ça l'a conduit où? Mais le plus important, c'est Dieu. À partir du verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Savoir se contenter. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà ce que dit la Bible. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent. Mais pourtant, bien-aimés, regardez le site chrétien. C'est l'argent partout. Concert payant, CD 20 euros. C'est l'argent partout. Et quand il y a des pasteurs, avant de voyager, ils réclament un billet 5 étoiles. Un billet première classe, hôtel 5 étoiles. Il y en a qui réclament une suite. On m'a parlé d'un qui a réclamé une voiture avec un chauffeur. Et il fallait qu'on lui trouve une salle de 1000 personnes. Il refusait de prêcher en deçà d'une salle de 1000 personnes. Bien-aimé,
l'amour de l'argent. Nous venons le lire, bien-aimé. Je n'ai pas une Bible différente de la vôtre. C'est écrit, ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans quoi? Dans des pièges. Et ils se jettent eux-mêmes dans les tourments. On dit prospérité. Quand tu es dans la prospérité, tu accomplis la parole, bien-aimé. La Bible dit dans Matthieu 6, 33, quoi? Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. C'est le royaume des cieux qui compte pour Dieu. Ce n'est pas l'argent. Dieu est le maître de l'argent. Il est le maître de la prospérité. Quand tu le cherches, il s'occupe du reste. Même si tu as une vieille voiture, pour toi, ça sera bien. Parce que tu te sens dans le confort, parce que Dieu est avec toi. C'est ça, la communion avec le Seigneur. C'est ça qu'on doit rechercher. Et on dit, mais c'est un prédicateur de pauvreté. Non, c'est un prédicateur de la vérité. La vérité, on vient de la lire, c'est clair. Pour autant qu'on a la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est l'apôtre du Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas de toit où dormir. Voilà. Mais il était fils de Dieu. Le diable lui dit, mais si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est comme nous, on nous dira, mais oui, mais si vous êtes vraiment de Dieu, pourquoi vous êtes dans une sorte de pauvreté? Bien aimé, nous serons riches quand Dieu le voudra. Mais nous ne nous inquiétons pas, parce qu'il a dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous ne manquons de rien. Nous sommes à l'aise. Voilà. Alors qu'il y en a qui ont la table remplie, garnie, mais n'ont pas d'appétit. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Vaut mieux manger un bon yaourt avec appétit que traîner dans des restaurants extraordinaires sans appétit. Bien aimé, revenons à la vérité. Ce n'est pas l'argent Ce n'est pas la bénédiction qui est une indication de bonne communion avec Dieu. Ce n'est pas la santé humaine qui est une indication de bonne communion avec Dieu. C'est la vérité. En pratiquant la parole de Dieu, qu'on est vraiment dans de bonnes conditions de communion avec le Seigneur. Que personne ne nous trompe. Ces indicateurs-là sont faux. J'ai vu un documentaire sur Whitney Houston, comment elle est devenue pauvre maintenant. Celle qui vendait des millions de disques. Mais elle est devenue hyper pauvre. Elle galère sérieusement. Elle cherche encore à recommencer, ça ne va pas. On a parlé encore d'un documentaire sur Mike Tyson. Comment il galère. Comment il avoue que ses derniers combats, il les a fait juste parce qu'il était endetté. Quelqu'un qui a gagné des millions, qui est passé dans toutes les télévisions. Bien aimé, tout ça, c'est rien. Ce qui est important, c'est Dieu. Quand Dieu te soutient, tu es avec lui. Éternellement. Et il prouvera qu'il est Dieu. Tu seras heureux. Combien de gens aujourd'hui ont pas de bénédiction? Il y en a qui sont prêts à tout pour le mariage. Il y a des églises qui se remplissent parce qu'il paraît là-bas, on se marie beaucoup, bien aimé. Mais nous sommes des pasteurs et nous connaissons la réalité des mariages. Beaucoup se marient, mais après sont déçus du mariage. Hein. La Bible dit dans Psaume 127, au verset 1er, « Celui qui bâtit une maison sans l'Éternel, bâtit en vain. Tout ce que tu bâtis sans Dieu, ça va te dégoûter. Ça peut être extraordinaire au début, mais ça va te dégoûter. Quand tu mets Dieu en avant, tu ne seras jamais dégoûté. Il te donnera la vie. La vie, c'est cette paix, cette bonheur, cette liberté que le Seigneur donne, malgré les difficultés. Nous connaissons, nous les pasteurs, la réalité des mariages. Nous savons que sans Dieu, il n'y a pas le bonheur. Si on ne met pas Dieu au-dessus de tout, il n'y a pas le bonheur. C'est une réalité. On entend beaucoup de choses. Donc, aller dans une église pour se marier, c'est tomber dans des pièges, comme l'apôtre le dit là. C'est tomber dans des pièges. Aller chercher Dieu pour des bénédictions, c'est tomber dans des pièges. Il faut chercher Dieu parce qu'il est la vérité, il est amour. Un autre problème, bien-aimé, c'est l'orgueil d'être dans le meilleur groupe. Il y a des églises qui enseignent d'une manière pernicieuse que c'est elle la meilleure église. Donc tu es là, tu es fier d'être dans la meilleure église. Au lieu d'être fier d'être enfant de Dieu, toi tu es fier d'être dans la meilleure église. Bien-aimé, nous qui avons un certain âge, nous avons vu des églises monter, tomber. Nous avons vu des hommes, des serviteurs de Dieu monter, tomber et devenir des escrocs. On l'a vu. Ce n'est pas une question qu'on nous a racontée, on a vu. Le meilleur, c'est Jésus. Une église qui te communique cet orgueil-là, comme quoi que tu es dans la meilleure, il faut faire attention. Le meilleur, c'est Jésus. Et souvent, quand tu veux quitter ces églises-là, on te dit, mais où tu iras à part tous ces zéros? Donc, c'est que, il y a des gens qui ont tellement entendu que leur église était la meilleure que quand il faut quitter, ils n'arrivent pas à quitter, alors qu'ils voient bien que c'est pourri à l'intérieur. Mais ils ont tellement entendu ça, on a réussi à leur communiquer l'orgueil. Souvenez-vous, le but du diable, c'était communiquer l'orgueil. Quand il te communique l'orgueil, tu es piégé. Tu commences à tout faire en fonction de toi. Tu commences à faire tout en fonction de ton élévation propre. Tu deviens soliste. Tu commences à marcher en solo. Tu n'as plus la vision du corps du Christ, mais tu as une vision personnelle. C'est ça le but. Et quand tu as une vision personnelle, c'est comme si tu es isolé. Tu peux être au milieu des gens, mais tu es seul. Parce que tu as une vision personnelle. Tu n'es plus connecté aux autres. Parce que Satan a réussi à te communiquer l'orgueil. Tu commences à voir les autres comme zéro, comme bas. Et une de leurs techniques, c'est de faire croire que l'église où tu es, c'est la meilleure. Ton pasteur, c'est le meilleur. De sorte que quand tu le vois dans les erreurs, tu ne peux plus lui dire la vérité. Et quand Dieu te demande de quitter, tu ne peux plus quitter. Parce que tu as déjà l'orgueil de la belle église, de la meilleure église. Et là-bas, on t'a déjà nommé diacre. Tu es ancien, tu es pasteur. Tu te dis, mais si je vais ailleurs, je vais recommencer à zéro. Je vais aller où? Dans une église de 100 personnes, alors qu'ici on est 1000. Bien-aimé. Et quand on est diacre dans une église de 1000 personnes, on est quelqu'un. Hein? Et il y en a même qui se battent pour distribuer la Sainte Cène. Il y a une sœur qui disait, mais moi, quand j'ai distribué la Sainte Cène sans compter les gens, je connais les nombres. Enfin, ça tombe pile poil. quand on lui a arraché là, le poste de la Sainte-Seine, quoi. Rébellion. Mais je ne comprends pas. J'ai l'onction pour ça, voilà. On l'a eu, elle a reçu l'orgueil. Une telle personne, même si elle voit les défauts, du moment qu'elle est chef de la Sainte-Seine, elle est tranquille. Ces gens-là sont contents. Ces gens-là, quand ils observent les chrétiens, non, quand ils sentent qu'ils t'ont eu, tu aimes les postes, tu aimes le succès, ils savent, bon, ils peuvent tout te faire maintenant. Tu es devenu esclave. Ils observent. Il y a des comportements que je vois parfois ici, j'ai dit, ils sont heureux parce qu'ils tomberaient chez les vautours. Dès que ces vautours-là voient bien que tu aimes telle chose, bon, comme c'est la Sainte-Seine qui l'intéresse, on lui donne. Après, on lui demandera autre chose après. Ils observent, ils veulent la prédication. Ben, ah oui, nous connaissons des églises où le pasteur sait bien que ce frère-là va être nommé évangéliste. Mais il ne le fait pas. Et le frère commence à mettre la pression, vouloir quitter l'église, le pasteur le nomme évangéliste. Comme ça, bon, il a ce qu'il veut, alors il reste esclave. C'est comme ça, bien-aimé. C'est très, très, très dangereux. L'orgueil de la meilleure église. Tu veux être dans une église, tu crois que c'est la meilleure. Et quand Dieu te demande de quitter, quand tu vois la pourriture dedans, tu ne peux plus quitter parce qu'on t'a eu. On t'a communiqué l'orgueil. C'est quelque chose qui est plus fort maintenant que toi. Même la vérité est devant toi, mais tu n'arrives pas à suivre la vérité parce que tu es déjà esclave de ton orgueil. C'est très dangereux, bien-aimé. La meilleure église, c'est là où Jésus t'envoie. Si Jésus t'envoie prier avec 5 personnes, c'est la meilleure église. Parce que cette église, c'est le corps du Christ. Ce n'est pas le fait... Quand je dis la meilleure église, ce n'est pas le groupe là qui est le meilleur. C'est le fait que tu es branché au corps du Christ parce que tu as reçu l'ordre de Jésus d'aller dans ce groupe-là. C'est cet ordre-là auquel tu obéis qui fait de toi être dans la meilleure église parce que tu es dans l'église corps du Christ, parce que tu obéis à la voix de ton maître. C'est cela. On ne peut pas fréquenter une église comme ça. On fréquente une église parce que le Seigneur nous y envoie. Et du moment qu'on obéit à son ordre, on est dans le meilleur endroit qui soit. Parce que cet endroit est connecté aux autres endroits parce que nous sommes un corps. Nous sommes connectés aux vrais chrétiens de Suède. Nous sommes connectés aux vrais chrétiens de Bangladesh. Nous sommes connectés aux vrais chrétiens de Chine. Nous sommes ensemble sans qu'on s'en rende compte. Mais la Bible le dit, nous sommes un corps. Et donc quand tu obéis à la voix du Seigneur pour être dans un endroit, tu es dans le meilleur endroit. C'est cela. Et tu dois accepter ça. Même si vous êtes 2, vous êtes 4, c'est le meilleur endroit pour toi. Moi, j'ai eu à choisir, bien-aimé, entre une église de 200 personnes où il y avait du mouvement, les gens qui tombaient, le pasteur quand il passait au couloir. Donc avant de prêcher, il venait de derrière là-bas. Donc pour aller prêcher, il fait... Donc, au lieu d'être devant déjà, et non, il commence le chant derrière. Et il passe comme... une procession, quoi. Et tout le long du couloir jusque devant, et pendant qu'il passe, les gens qui tombent, aïe, là-bas, qui tombent à gauche, qui tombent à droite. Et j'ai dit, non, je vais aller dans l'église où il y a 7 personnes. Voilà. Ici, il y a du succès, il y a du monde, il y a une belle chorale, mais je crois que Dieu veut que j'aille là-bas. Là où je partais, c'était un pasteur que j'avais vu dans une conférence. Il était le plus simple, quoi. J'ai dit non, moi j'aime la nature de Jésus. J'aime beaucoup la nature de Jésus. Tout ce qui est bling bling là, sans Jésus, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit j'irai là où le pasteur là, il est simple. Et il n'y avait que 7 personnes. Moi j'étais très content. C'était mon église. Voilà. Parce qu'il a la nature de Jésus. Il manifeste la nature de Jésus. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le bling bling. Jésus est tout puissant, bien-aimé. On n'a pas besoin de forcer les choses. Suivons-le. Il a dit, quiconque croit verra ma gloire. Suivons seulement, on verra. Et bien aimé, un problème qu'on le voit aujourd'hui, c'est la prédication sur la réussite personnelle. Un autre problème. On dit, il faut marquer son temps. Chrétien, tu dois marquer ton temps. Bien-aimé, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? On dit, il faut développer ton potentiel. Ça, c'est des prédications qui viennent des États-Unis. Ton potentiel, qu'est-ce que tu en fais? Quel potentiel, bien-aimé? Ça, c'est des trucs en physique, ce n'est pas des trucs qu'on voit les énergies potentielles en physique, en technologie. Développer quoi? Nous, bien-aimés, Jésus agit en nous, on le laisse agir. On est comme des couteaux, on se laisse dans les mains de Jésus. Il fait ce qu'il en veut. Alléluia. C'est ça la vérité. Ton potentiel, non, ça c'est en physique. Ici, c'est Jésus. Amen. On dit, il faut réussir. Moi, j'ai dit, j'ai déjà réussi. Parce que j'ai cru en Jésus. Le jour où tu deviens chrétien, c'est là que tu as réussi. Tu es entré dans le lieu très saint. Jésus te tient par la main. Il t'amène au but à coup sûr. Et c'est ainsi que les gens sont là. À chercher une imposition de main pour une élévation. Parce qu'il veut réussir. Ah, mais il a des enseignements puissants. On va aller là-bas prendre. On va aller là à gauche. Les gens veulent réussir. Ils ne veulent pas suivre. Moi, j'ai dit que vaut mieux suivre un pasteur qui semble ne pas connaître grand-chose, mais qui est pur. Mais qui ne connaît pas trop de choses, mais qui connaît ce qui est essentiel. Vaut mieux le suivre que suivre quelqu'un qui va t'impressionner, qui va te gonfler la tête, après il t'amène en enfer. Non, bien-aimé. Suivons la Bible, la vérité. Prédication de réussite personnelle. Ces gens-là sont devenus comme des coachs dans le monde. Des gens qui t'apprennent à réussir. Non, nous apprenons les gens à se soumettre à Jésus. Plus tu es soumis à Jésus, plus tu réussiras. Notre but, c'est d'amener les gens. Ephésiens 4, 11. La Bible dit, Dieu a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, pour amener les gens à la stature parfaite de Jésus. Les amener à ressembler à Jésus. Il ne les a pas établis pour qu'ils réussissent, mais pour qu'ils ressemblent au Seigneur. Pour qu'ils aient une foi totale au Seigneur. C'est là qu'ils réussiront. Mais qu'est-ce qu'on appelle réussite? Est-ce que vous avez déjà entendu Paul prêcher devant 1000 personnes? On n'en parle pas dans la Bible. On parle de Pierre dans ce sens-là, on ne parle pas de Paul dans ce sens-là. Est-ce qu'on a déjà entendu Paul rester chez un gouverneur, rester, devenir l'ami du gouverneur, avoir un grand bâtiment? Non, on n'en parle pas. Au contraire, la Bible dit que Paul a converti un gouverneur dans une des villes. Par exemple, à Malte, ils convertissent un personnage important de la ville. Mais Paul ne reste pas là. Bon, même s'il était prisonnier, il pouvait négocier pour ne plus être prisonnier parce que cet homme-là était important. Nous voyons ailleurs, Paul convertit un proconsul, c'est-à-dire un gouverneur de ville. Mais Paul reste là 2 jours et puis il s'en va. Il pouvait dire, bon, comme j'ai converti le gouverneur, il va me donner un terrain, je vais construire, je vais rester ici, bâtir quelque chose. Non, bien-aimé, il continue sa route. Réussir quoi? Qu'est-ce qu'on veut réussir? Réussir, c'est faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu qu'on soit en prison, on est en prison. Watchman Nee a fait 20 ans en prison, 20 ans, à cause du communisme en Chine. Mais les témoignages nous disent que après les 20 ans de prison, il écrivait avant sa mort. Il est mort en prison. Il écrivait une lettre à sa belle-sœur expliquant comment il était content en Jésus. 20 ans de prison. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est un échec. Non, c'est la réussite. Il est resté ferme. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Paul ne dit pas que j'ai fait des grandes églises. J'ai fait des miracles. Il a dit j'ai gardé la foi. Une façon de dire, je suis resté fidèle à Jésus, malgré tout ce qui s'est passé dans le monde. Bien-aimés, attention à ces prédications de la réussite. Un dernier point, puisque le temps est passé, c'est le star system. Le milieu évangélique aujourd'hui communique aux gens le star system. C'est-à-dire, tu dois devenir une star. Une sœur qui chante très bien. Oh! Toi, tu vas chanter dans les grandes salles. Tu vas chanter aux États-Unis, mes bien-aimés. Est-ce que Dieu s'intéresse à ce qu'elle chante aux États-Unis, bien dans une grande salle, ou faire beaucoup de CD? Dieu s'intéresse à ce qu'elle adore. Amen. Si Dieu se décide d'aller rendre cette sœur-là ou ce frère-là populaire à travers le ministère qu'il lui a confié, ça, c'est Dieu qui va décider. Ce n'est pas automatique que si j'ai une belle voix, à tout prix, je dois faire beaucoup de CD, je dois aller dans de grandes salles. Ce n'est pas dit. Nulle part. Ce n'est pas automatique que si tu prêches bien, automatiquement tu dois le faire dans des grandes salles, dans des conventions. Ce n'est pas dit. Nulle part. Il y a des grands prédicateurs de la Bible qu'on ne connaît pas, des gens du 7e, 6e siècle qui ont fait de grandes choses avec Dieu, qu'on ne connaît pas. Mais ceux qui lisent les livres d'histoire les connaissent. Il y a un certain Jean dans l'île de Chypre, et puis en Égypte, en Alexandrie, qui a fait du boulot pour le Seigneur d'une manière extraordinaire, Jean d'Anatonte. Mais qui le connaît? Quelqu'un qui a vécu au 7e siècle. Quand vous lisez son histoire, vous dites, mais c'est extraordinaire. Il perd tous ses enfants et sa femme. À partir de ce moment-là, il met sa vie entre les mains de Dieu pour servir les pauvres. Et de là, il devient le chef de l'église d'Alexandrie. Bien-aimé, qui connaît ce genre-là? Qui a donné toute sa vie au Seigneur comme ça? Qui ne s'est pas rébellé quand sa femme et ses enfants sont morts? Qui le connaît? Le star system n'est pas biblique. C'est Jésus qui doit avoir un renom. Nous nous répandons le parfum de Jésus partout où nous passons. Nous ne devons pas chercher à ce que ce soit nous qui soyons connus, mais que le Seigneur soit connu. Et vous savez, ce star system fait que beaucoup n'acceptent plus de travailler dans une logique de corps, dans une logique d'ensemble. Ils veulent travailler dans une logique de solo. Je connais un pays d'Afrique, même pas un pays, dans plusieurs pays d'Afrique, même aux États-Unis. Tous les chantres chrétiens, tous les musiciens chrétiens veulent faire des albums personnels qu'ils vont vendre, ils vont avoir les bénéfices, quoi. Ils ne marchent plus dans une logique de corps du Christ, mais dans une logique de soliste. Ils sont dans le solo. Ils font leur ministère à part du corps du Christ. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'on doit se soumettre aux autorités. Un chantre qui n'a pas d'autorité, ça veut dire quoi? Nous devons travailler dans le cadre du corps du Christ et des églises avec les autorités telles que Dieu les a établies et non pas commencer à vouloir faire des trucs en solo. Non. Ce n'est pas de Dieu. Tout ça, c'est le star system. Les gens ne veulent plus rester cachés. Il faut qu'ils fassent quelque chose qui les mette en évidence. Ils ne supportent plus d'être dans un ensemble, dans un corps. Il faut faire quelque chose qui les mette en évidence. Ça, c'est comme dans le monde. Dès qu'on te remarque, on te met en évidence. On a vu comment ça s'est terminé pour cette femme-là. Elle a fini à l'hôpital. Hein? Suzanne Boyle, hein? À l'hôpital, celle qui a fait succès ces derniers temps-là. Elle n'était pas connue. On la voit dans une émission de concours de chantre. Eh bien, elle cartonne. Et puis, la presse la fait connaître. Elle reçoit la pression. Là, maintenant, elle est à l'hôpital. Trop de pression. Et ça, nous revoyons ça dans les milieux chrétiens. Dès que quelqu'un a un talent, on veut lui faire un truc en solo. Star system. Qu'elle devienne une star. Non. Ce n'est pas ça. Nous devons être soumis à Dieu. Si Dieu ne veut pas qu'on soit connu, ne soyons pas connus. Nous ne connaissons pas les dangers d'être connus. Être connu, il y a des dangers dedans. Tout le monde ne connaît pas ça. Les gens voient seulement quand les autres sont connus. Ils trouvent ça qu'ils ont des avantages. Mais bien aimé, quand tu es connu, est-ce que le nombre d'ennemis que tu as, quand tu es connu, il y a des gens qui vont venir, son but c'est de te faire tomber. Il t'a vu à la télé, il déménage, il s'approche de ta maison, le but c'est de te faire tomber. Mais si on ne t'avait pas vu à la télé, tu serais tranquille par rapport à cette personne-là. Bien aimé, être connu, ça a des dangers extraordinaires. C'est pourquoi Dieu ne laisse pas ses enfants être connus avant le temps. Parce qu'il sait qu'avant le temps, ça sera des problèmes. Souvenons-nous de notre maître Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait quand il faisait certains miracles? Ne le dites pas, parce que ce n'était pas le temps qu'il soit trop connu. Parce que quand on est connu, les plans de Dieu, l'ennemi va commencer à vouloir les bouleverser. Et si nous, on n'est pas prêts, on se laissera avoir. Attention au star system. Ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a dans des pays comme Afrique du Sud, États-Unis, certains pays d'Afrique, chaque année, on proclame le meilleur chantre, la meilleure voix féminine, la meilleure voix masculine, dans le milieu chrétien. Hein? Et dernièrement, j'ai vu sur Internet, un pasteur, on lui donne une sorte d'Oscar chrétien, quoi, pour son ministère pendant 20 ans. Je donne son nom puisque... C'est des gens qui cassent ça. Il s'agit de T.D. Jakes. Donc on lui donne carrément une sorte de star pour son ministère bien-aimé. La Bible dit que nos récompenses, ça sera au ciel. Sur terre, tant que quelqu'un n'est pas mort, l'histoire n'est pas encore finie. c'est quand on arrive à la mort, comme Paul on dit, ouf, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Il n'y a pas d'Oscar, enfin de rescar, religieux Oscar. Non, il n'y a pas de ça. Et on donne chaque année, voilà le meilleur pasteur de Kinshasa. Voilà le... Bien-aimé, non, ce n'est pas normal. Le meilleur pasteur, c'est Jésus. Sans faille, c'est Jésus. On ne peut pas publier les meilleurs pasteurs de tout ça. Nous venons de lire, Jésus a dit, le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. Quand les disciples cherchaient qui était le plus grand, qu'est-ce que Jésus a fait? Il leur a amené un enfant. Il a dit, si vous ne vous convertissez pas et ne devenez pas comme les enfants, quand on te vote comme ça meilleur pasteur, tu dois refuser. Tu viens, tu fais une annonce publique, je refuse parce que c'est contraire à la Bible. Voilà. Il y a des gens du monde qui ont refusé des prix Nobel parce que ça allait à l'encontre de leur conception. Jean-Paul Sartre a refusé son prix Nobel parce que ça allait à l'encontre de sa théorie. Vous savez, qu'est-ce qu'un prix Nobel? Beaucoup d'argent, hein? Beaucoup de succès. Mais Jean, il a refusé parce que ça contredisait ses idées. Mais nous, les chrétiens, on accepte qu'on nous étiquette meilleur chantre, meilleur pasteur. Mais non, ce n'est pas biblique. Le star system. Et on plébiscite des gens comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas, c'est comme un Oscar. Donc c'est copier le monde dans l'église. Des concerts payants. Il y a des chantres, quand ils arrivent dans un pays, les pasteurs annulent leur programme, ils font un concert exprès parce qu'il est là. Je dis, bien-aimé, nous on va te proposer d'aller chanter à la gare pour évangéliser. C'est ça la vérité. Et si tu ne veux pas, tu veux seulement la grande salle, on dit, bon, tu vas chanter lors d'une veillée alors. Où on sera 20 dans une maison pour la gloire de Dieu. On veut à tout prix des grandes salles, insiste. Non, bien-aimé. Et tout le monde est là à vouloir faire son album, faire son ministère personnel, l'égoïsme, à cause du star system. Non, Dieu veut qu'on soit un corps. Attention à cet orgueil du système évangélique. Revenons à la simplicité. Jésus a dit que le plus grand soit comme un enfant. Revenons à la simplicité. Jésus est parti jusqu'à la mort à la croix, humilié, mais il est resté simple. Le système évangélique actuel communique l'orgueil. Résistons à ça. Ne polémiquons pas sur des histoires de ministères. Tu as un tel ministère ou tel autre ministère. Comme un pasteur m'a dit qu'il a été à un mariage, on l'a présenté, une personne pasteur, une autre pasteur. Le mariage n'était pas si grand que ça. Il a dit, pasteur, il y avait beaucoup plus de pasteurs que les chrétiens. Donc on court après les titres. Non. Travaillons, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Même si on n'a pas de titres, travaillons. Obéissons au Seigneur. C'est ça qui est important. Amen. Avoir des trophées comme qu'on est le meilleur pasteur, le grand chantre, ce n'est pas de Dieu. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui font ça ne sont pas de Dieu. Je ne suis pas en train de dire ça. Il y a des faux qui ont instauré ça et qui ont contaminé les vrais. Mais nous dénonçons ces actes-là qui ne sont pas bons. Revenons à la vérité. Il y a même des gens de l'ancien temps qui disent que quand les chrétiens se convertissaient autrefois, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. L'église, ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Revenons à la simplicité. Quittons cet orgueil. Quittons le star system. Revenons à la simplicité. Travaillons sans être connus. On ne nous envoie pas pour être connus, on nous envoie pour servir le Seigneur. Soyons à la hauteur de ce que Jésus a fait pour nous. Mourir à la croix, humilié, défiguré. Soyons à la hauteur de cela. Suivons l'exemple de nos prédécesseurs. Paul, David, Jean, Pierre, qui ont été dans l'humiliation pour le Seigneur. Qui ont été contestés à leur époque, mais qui ont travaillé. Et retenons que bien-aimés, retenons ce qui est écrit dans 1 Pierre. Nous lisons ensemble. 1 Pierre 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, 1 Pierre 5, 5, dans vos rapports mutuels,
Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel grand Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous prévient des ruses de l'ennemi qui use de l'orgueil pour nous fatiguer, qui use de l'orgueil pour nous éloigner de la vision du corps du Christ, qui use de l'orgueil pour nous amener à penser égoïstement, individuellement, à penser à un appel personnel au lieu de penser au corps du Christ, à notre rôle dans ce corps. Mais on commence à voir les choses comme si l'appel était un objet qu'on met en poche qui nous appartient personnellement. Or, le vrai appel, c'est être livré entre les mains du Seigneur pour servir en faveur des autres, en faveur de son corps. Ô Éternel, merci de nous aider. Accepte ta parole. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint convainc. Je prie que ton Esprit Saint convainc. Seigneur, lorsque nous prêchons ceci, Seigneur, nous te demandons de nous aider nous-mêmes. Car la Bible dit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, Seigneur. Que nous soyons vigilants tous, comme Pierre nous exhorte, à être vigilants, à être sobres. Parce que nous-mêmes, nous pouvons tomber dans le même piège que nous dénonçons, Seigneur. Que nous acceptons de te servir sans chercher des récompenses sur terre, mais nous attendre qu'à la récompense céleste. Que nous acceptons de te servir, ô Seigneur, même si on doit le faire sans succès, mais qu'on fasse notre part, c'est d'obéir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci de nous donner ta sagesse, Seigneur, ta simplicité, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, nous nous attendons à toi. Alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire pour mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Il est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main.
Justice.
Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, et par ton pardon.
justice.
Jésus-Christ est ma justice. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice et pardon par la foi.
Oh, son sang. Jésus en paix à ma dette.
Jésus en paix à ma dette. À grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Jésus,
Jésus. Racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Jésus en paix à ma dette.
Jésus en paix à ma dette. À grand prix. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Il est ma sagesse.
Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse.
Seigneur, nous t'avons choisi, Jésus. C'est toi la vérité, Seigneur. Même si sur terre, nous ne sommes pas riches ou dans le succès, nous savons qu'au ciel, notre place est gardée. Tu nous as laissé comme testament. Tu nous as dit que tu partais nous réserver des places. Nous sommes de passage sur la terre. Nous ne sommes pas ici pour faire du succès, mais pour être des instruments entre tes mains pour le salut des âmes et l'adoration du Père. Qu'il en sorte ainsi dans nos vies, à nous tous, au nom de Jésus. Amen.